Gidérienne, bonjour. Bienvenue aujourd'hui pour ce retour d'XP consacré à Breaking the Ice de Emily Kerbos. Pour une fois, on l'a enverra sur le papier. On accueille aujourd'hui Xavier, merci.
Bonjour. Breaking the Ice, qu'est-ce que c'est?
C'est un jeu de rôle pour deux joueurs où l'on va incarner deux personnages qui vont avoir trois rendez-vous amoureux, à l'issue duquel on va définir si ils ont ou pas un avenir ensemble. C'est donc un jeu de rôle sans meneur et où, de manière alternative, un des joueurs sera dit le joueur actif et le second le guide. Et comment on crée des personnages?
On va définir chacun une couleur. On va donner l'un et l'autre 12 mots afin de définir les traits de chaque personnage.
Et c'est tout?
Non, on va aussi échanger l'un et l'autre un trait qui nous caractérise.
Nos personnages ou nous-mêmes?
Nous-mêmes, directement, Jérôme et Xavier. Et comment vont se dérouler les trois rendez-vous?
Chaque rendez-vous se compose de 4 à 6 scènes. De manière alternative, le joueur actif va chercher à séduire l'autre en mettant en avant ses traits, en essayant de raconter des choses gentilles, touchantes, émouvantes. Et en réponse, le guide va pouvoir lui donner des dés afin de manifester son approbation. À la fin de chaque scène, avec un pool de dés qu'il aura récupéré, le joueur actif va pouvoir les lancer et vérifier le nombre de réussites. Les réussites, c'est sur un 5 et un 6. L'objectif va être d'augmenter l'attirance entre les deux personnages en ayant 3 réussites ou bien les compatibilités en ayant 4.
Une réussite sur un 5 ou un 6, c'est pas un peu difficile?
Alors effectivement, au niveau des probabilités, elles sont en défaveur des personnages. Par contre, on peut relancer les dés qui ont échoué, soit en se mettant en danger, soit en utilisant un trait de manière négative, soit en faisant que notre personnage puisse être dans une situation qui ne lui soit pas favorable. Il peut également gagner des dés supplémentaires en utilisant un conflit, conflit qu'il aura défini au départ et qui peut entraver le bon déroulement du rendez-vous. Et le jeu se termine comment?
On comptabilise le nombre d'attirances et de compatibilités et on définit si les personnages finissent ensemble ou pas.
On vient de finir la partie de Breaking the Ice d'Emily Kerbos avec Xavier. Pour ceux qui n'ont pas suivi, en fait, on a diffusé la partie sur l'Actual Play Duo où vous aurez l'intégralité de la fiction qu'on a pu jouer avec Xavier. Et puis ben là, on va débriefer de la partie. Un petit rappel concernant Xavier pour ceux qui n'auraient pas regardé la première partie du RPG A Day 2018. Bah, c'est sa première partie de jeu de rôle. On va dire que c'est quand même courageux parce que c'est, comme vous avez pu le voir en intro, c'est quand même un jeu sans meneur. Et c'est vrai que pour commencer le jeu de rôle, beaucoup de rôlistes diraient quand même que c'est pas forcément le moyen le plus accessible. Et donc, enfin, en tout cas, moi, je le félicite d'avoir commencé comme ça. Avant le débrief, petit remerciement à Valentin T, en fait, qui nous a posé un petit paquet de questions en fait à intégrer à notre débrief, et merci à lui parce qu'elles étaient hyper pertinentes et dans la préparation que j'avais pu faire du podcast, j'avais pas traité de ces questions. Alors comment on va faire le débrief entre Xavier et moi? J'interviendrai plus dans ce retour d'XP qu'habituellement, où l'habitude j'ai plutôt un rôle d'animateur et où je passe la parole à chacun. Là je vais pas non plus obliger Xavier à être le seul à répondre aux questions. Donc des fois je poserai des questions en disant tu, mais en fait le tu s'adressera aussi à moi, des fois à nous, enfin ce sera un peu le bordel, faut être honnête. Mais l'idée c'est que Xavier et moi on réponde aux questions. Allez, la première partie des questions va concerner nos impressions générales. Allez, première question, est-ce que la partie t'a plu?
Moi, j'ai beaucoup apprécié la partie, déjà de découvrir ce style de jeu de rôle. Pour moi, c'était des dragons qu'on tue à coups de dés. Je ne pensais pas que les jeux de rôle pouvaient être dans ce thème.
Alors, me concernant, la partie m'a énormément plu aussi. On va de toute manière rentrer plus sur la mécanique, la fiction, etc. Donc, parce que j'aurai des petits points, c'est pas parce que la fiction m'a plu que j'ai pas des petits, entre mes griefs ou des petits points négatifs à signaler. Mais moi aussi, moi j'étais très content d'avoir joué à ce jeu, parce qu'en fait, bah, il avait été édité par la boîte à eux, il me semble, il y a quoi, 7-8 ans, il me semble. Et donc je l'avais acheté immédiatement, sauf que depuis 7-8 ans, impossible à jouer, notamment parce que, bah, comme Xavier le dit, bah, la thématique, en fait, est pas forcément la plus simple à intégrer. Alors, en tout cas, de trouver une deuxième personne pour y jouer. Et donc, bah, c'est vrai qu'il faisait partie du haut de la liste des jeux que j'avais envie de tester, sans pouvoir le faire. Donc rien que déjà pour l'avoir mis en place une première fois, déjà, bah, j'en suis super content. Et c'est vrai que bah, je suis plutôt satisfait de la fiction, même si on pouvait peut-être aller plus loin, mais ça, on en parlera un peu plus tard. On va revenir sur le avant la partie, puisque la prochaine question, c'est dans quel état émotionnel étions-nous avant la partie. Puis ensuite, bien sûr, on fera le pendant la partie, et bien sûr le après la partie. Donc, avant la partie, dans quel état étais-tu ?
Avant la partie, moi, j'étais assez stressé. C'était le premier jeu de rôle que je faisais. Beaucoup de règles à essayer, en tout cas, de pas forcément intégrer, puisque c'est toi qui les as intégrées, mais moi, à essayer de suivre, à essayer de comprendre. Du stress, mais après, une fois que ça a été lancé, ça allait mieux.
Alors pour moi, avant la partie, ben j'étais aussi stressé, pas pour les mêmes raisons. Alors j'étais stressé, bah d'une part parce que je savais forcément que c'était la première partie de jeu de rôle de Xavier, et donc j'avais pas envie de gâcher son expérience en lui proposant quelque chose qui lui conviendrait pas. Alors bien sûr, on avait parlé du jeu avant, il savait de quoi on allait parler, sauf que il était quand même compliqué de se dire si ça allait marcher ou pas. Donc je reconnais que j'étais quand même assez stressé, parce que, bah, comme on dit, on a qu'une seule chance de faire une première bonne impression. Et si je m'étais planté, entre guillemets, ou si l'expérience n'avait pas été satisfaisante pour lui, bah, j'ai envie de dire peut-être qu'il aurait arrêté de jouer au jeu de rôle. Bon, après, on verra s'il aura envie de continuer, on lui posera sûrement la question après. Mais c'est vrai que j'étais stressé par ça, en me disant que bah, c'était un jeu que moi, j'avais jamais mis en place. Donc c'est stressant de base, parce que est-ce que la mécanique va bien rouler, est-ce que je vais réussir à intégrer effectivement toutes les règles et tout ça, est-ce que je vais réussir à les transmettre, et puis en plus, bah, ce côté, bah oui, première expérience en jeu de rôle, et donc est-ce que je vais réussir à lui donner envie de pouvoir explorer d'autres thématiques, d'autres jeux, d'autres dispositifs ou pas.
Après, pendant la partie, ça a été au début un peu stressant, parce que j'ai choisi d'être dès le démarrage le joueur actif. Forcément, je me suis jeté dans l'arène, mais au moins ça permettait de mettre directement un pied dans la partie.
Alors, me concernant, bah, pendant la partie, au départ, c'est vrai qu'il y a une, j'ai eu la sensation quand même qu'il y a une phase, j'ai envie de dire, d'appropriation des règles, et on a eu une début de fiction qui était assez haché en fait entre moment narrer et moment mécanique où effectivement on était on va récupérer des dés, on va les jeter, qu'est-ce que ça a comme conséquence, qu'est-ce qu'on va faire pour la fiction derrière et ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'au début, en tout cas le premier rendez-vous était assez haché, alors que ben, plus le temps passait, plus j'ai eu l'impression qu'on avait intégré cette mécanique, à tel point que sur le troisième rendez-vous, on avait même réussi à trouver un code, on va dire, qui était non-verbal pour inciter l'autre à jeter les dés pour voir comment la fiction allait tourner, et on était vraiment, moi j'ai senti plus à l'aise dedans, et donc au fur et à mesure des trois rendez-vous, bah, je me suis bah, moins détendu, pouvant me concentrer plus sur la fiction, sur l'histoire qui se passait entre nos deux personnages. Et peut-être que quelque part, bah, j'étais aussi, on va reprendre un terme de Frédéric Saintès, en synesthésie avec mon personnage, avec bah, le fait que mon personnage soit de plus en plus à l'aise avec le personnage de qu'incarnait Xavier. Peut-être que bah, moi, j'étais un peu dans la même sensation avec, au début, je tâtonne un petit peu sur comment ça va marcher, comment l'interaction va fonctionner, et puis ben, au fur et à mesure des rendez-vous, ben, être plus à l'aise, jusqu'à avoir un troisième rendez-vous où là on était ben, beaucoup plus tranquille et sûr de ce que l'on allait faire. Après, on parlera des dés, parce que forcément les dés sont intervenus. Et donc après la partie, comment tu t'es senti alors ?
Après la partie, je me suis senti un petit peu, je vais pas dire triste, parce que c'est pas le bon mot, mais j'arrive pas à en trouver d'autres. Ouais, ou t'es su que la partie soit déjà finie, parce qu'il y avait une bonne synergie entre tous les deux, l'histoire commençait à prendre forme de plus en plus. Le fait de devoir arrêter, puisque les trois rendez-vous étaient passés, et de devoir trancher la décision, quelque part, est une décision dure à prendre, parce que tu as envie que ça continue, de voir comment ça va évoluer. Mais là, on tiendrait sur un roman à force.
C'est vrai que ça fera partie des points qu'on va traiter après derrière, justement, je pense, pour avoir quelque chose de, entre guillemets, un peu plus satisfaisant. Et donc, moi, après la partie, j'étais bien. J'étais heureux d'avoir joué cette histoire. C'était une très jolie histoire, moi, j'ai trouvé, en tout cas. Avec pas mal de choses qui étaient intéressantes. Et avec surtout deux personnages qui étaient, avec deux caractères, pour moi, en tout cas, j'ai ressenti deux caractères assez différents dans l'approche à l'autre. Et c'était assez marrant de voir ça. Et très franchement, j'étais très content. Alors moi, j'ai pas eu cette sensation d'être frustré par le fait de devoir trancher, mais je serais en tout cas partant pour retester le jeu avec un autre dispositif. Mais c'était très content de me dire que enfin j'ai pu y jouer. Pour la suite, qu'est-ce qui nous a motivé à jouer à ce jeu ? Alors qu'est-ce qui t'a motivé à choisir ce jeu ? Puisqu'en fait, je t'avais fait trois propositions. Pourquoi celui-ci en particulier ?
Ce qui m'a plu dans ce jeu de rôle par rapport à tous ceux que tu m'avais proposés, c'était la notion d'histoire entre les deux personnages. Et lorsque on a fait le RPG A Day 2018, quand tu as parlé de la notion de drama, c'était quelque chose qui m'intéressait, que je voulais découvrir dans le jeu de rôle. Comme je dis, c'était, on s'en fait une image du jeu de rôle, et là j'ai découvert quelque chose de complètement différent.
Et donc moi, comme j'ai dit précédemment, ce qui m'a motivé à jouer à ce jeu, c'est que d'une part c'est un jeu qui m'avait vraiment beaucoup plu lorsque la boîte à eux l'avait édité. C'est aussi un jeu sur la scène indépendante qui a marqué les esprits aussi, et dont beaucoup de personnes ont parlé. Et je trouvais que c'était aussi un manque que j'avais de n'avoir fait que le lire, et j'avais envie de pouvoir le tester, de pouvoir découvrir ce que ça pouvait donner comme type de fiction, et est-ce que ça allait me toucher, est-ce que ça allait me plaire, est-ce qu'il était pas trop mécanique, et donc pour ça c'était vraiment une volonté de me dire, si je dois tester un jeu à deux, il faut que ce soit lui en premier que je teste, et puis ensuite on verra les autres, mais ayant fait date dans le jeu de rôle indépendant, ça me semblait logique de le mettre en place. On va rentrer maintenant dans la phase de création des personnages. Donc si tu peux nous présenter ton personnage, et moi je ferai de même juste après, parce que pour les personnes qui n'auraient pas écouté l'actuel play, ça leur permettra de savoir qui jouait quoi, surtout si on fait référence à l'histoire, au moins ça leur donnera un point de départ en fait. Et on va probablement résumer très vite la fiction, mais ça sera très vite.
Donc mon personnage s'appelle James, sa couleur préférée est le bleu, sa caractéristique c'est qu'il est moins geek, c'est un fleuriste qui était un ex-détenu, qui est en quête intérieure, qui a comme loisir les voyages et la plongée. Et sa peur, c'est l'agoraphobie.
Pour ma part, j'interprétais Patrick, qui avait pour couleur préférée le vert, qui était un geek. Il était irlandais, amateur de bière, heureux de vivre. C'était un inspecteur de police qui écrivait des contes de fées, certains contes qui avaient été adaptés pour le théâtre, et notamment pour le théâtre pour les enfants. Son conflit, c'était le fait d'être le parrain d'une personne qui était enregistrée, entre guillemets, aux alcooliques anonymes. Pour résumer très vite la fiction et les trois rendez-vous, les deux personnages en fait sont retrouvés suite à un échange de téléphone portable, malencontreux. Rendez-vous au cours duquel le personnage de James a invité celui de Patrick à venir dans sa boutique de fleurs pour lui montrer son métier et ce genre de choses. Ce qui avait permis aux deux personnages de découvrir qu'ils avaient un point commun qui était les voyages notamment. Puis au cours du deuxième rendez-vous, c'était au tour de Patrick d'inviter James lors de la Saint-Patrick dans un pub où ils ont pu échanger et notamment avoir un Patrick un petit peu humilié face à tous ses potes suite à une danse complètement ratée. Ce qui a quand même donné lieu ensuite à une balade assez romantique dans un parc. Et enfin, le dernier rendez-vous était dans un théâtre pour enfants, puisqu'il s'est déroulé une pièce qu'avait écrite Patrick, et au cours de laquelle les deux personnages avaient également pris conscience que quelque chose les reliait en termes de bienveillance. Mais l'intervention d'une mère dont le fils a été mis en prison par Patrick a conduit au fait que le rendez-vous et le dernier rendez-vous s'arrêtent, et au final que ces deux personnages finalement n'iraient pas plus loin dans leur relation. Alors bien sûr, pour ceux qui voudraient en savoir plus, il y a l'actual play à écouter, et là vous aurez l'intégralité des rendez-vous. Et donc, avant d'aboutir à ces personnages, on va parler de la manière dont ça s'est passé. La première des choses, c'est la création d'une carte de mots qui prend pour point de départ, comme tu disais Xavier, la couleur préférée du personnage. Et ensuite, on va noter sur cette carte tous les mots qui nous font penser soit à cette couleur, soit aux mots que l'on a pu inscrire en rebondit dessus. Et donc, est-ce que toi, ça t'a plu? Est-ce que ça t'a aidé? Qu'est-ce que t'as pensé de cette phase juste de création de carte?
J'ai beaucoup aimé cette phase de création de cartes, car je trouvais que c'était original de partir d'une couleur, d'échanger des idées, et de faire ensemble le point, et vraiment d'enrichir un personnage, et pas simplement lui donner des traits jetés comme ça, mais au fur et à mesure que l'on avait les idées sur les personnages, c'était vraiment d'étoffer le personnage, sa personnalité, et de déjà avoir des idées pour ce qui allait venir.
Avant de commencer, justement, est-ce que tu avais une idée de personnage ?
Je n'avais aucune idée de personnage, je n'avais pas envie de partir sur quelque chose de préfabriqué. L'idée, vraiment, c'était de rentrer dans le jeu dès le démarrage avec la création de la carte comme il était préconisé.
Le fait que l'autre personne participe à ce brainstorming, ça t'a embêté? Est-ce que ça t'a permis d'avoir un personnage plus riche? Qu'est-ce que t'en as pensé?
C'est bien parce que tu as déjà fait la question et la réponse. Mais moi, j'ai beaucoup aimé qu'il y ait cet enrichissement des mots. Ça permettait de ne pas donner une seule direction au personnage, mais vraiment de créer quelque chose de, on va dire, d'unique. Pas un personnage qui serait un peu trop dans l'idée de ce qu'on se prépare, mais vraiment quelque chose de riche, d'échangé et de deux points de vue.
Alors pour ma part, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai adoré cette création de personnage, en tout cas cette création de carte. J'ai trouvé ça hyper stimulant. Franchement, j'avais qu'une hâte, en fait, c'était de jouer la partie. Quand on est arrivé à la fin de ça, j'avais qu'une hâte, c'était de me dire « Ok, on y va ». C'est vrai que le fait de faire cette carte à deux, ça enrichit le personnage, mais c'est déstabilisant. Parce qu'effectivement, ça m'est arrivé d'avoir des mots que t'aies pu mettre sur ma carte, où je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais en faire? Alors par exemple, le pomme, très franchement, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ce mot? Et puis en fait, après, derrière est arrivée l'histoire des contes de fées, le fait que les pommes sont empoisonnées, etc. Chose que j'avais jamais, jamais envisagée au départ, quoi. Et donc c'est vrai que c'est déstabilisant, parce que on peut partir sur une idée. Alors j'étais pas du tout parti sur une idée, j'avais aucune idée préconçue, et je voulais pas que ma couleur choisie soit une couleur, j'allais dire classique. En tout cas, voilà, je voulais faire quelque chose d'un petit peu à l'écart. Mais c'est vrai que quand l'autre intervient sur sa carte, à chaque fois c'est une surprise. On se dit, mais dans quel sens il veut aller? Qu'est-ce que moi je peux en faire? Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir en faire, hein. C'est quand même du matériel que l'autre met et partage avec soi, donc quelque part, c'est aussi, peut-être pas forcément volontairement, je ne sais pas, mais peut-être des choses qu'il a envie de voir ressortir sur le personnage de l'autre, Et donc on peut pas ne pas faire attention à ça. Mais quand on sait pas trop ce qu'il a en tête, parce que l'idée c'est pas non plus de dire bah, pourquoi t'as marqué ce mot, mais d'essayer de rebondir dessus, bah, c'est un peu perturbant, mais c'est au final, ouais, j'ai eu un personnage, moi en tout cas, que j'ai vraiment apprécié. On reviendra sur justement le fait d'avoir ou pas apprécié son personnage, mais vraiment à la fin de cette carte, j'avais qu'une hâte, c'était de commencer la partie. Et ça m'a vraiment fait penser aussi beaucoup à un autre jeu que j'adore, qui est On Mighty Twos, qui commence par la création d'une carte d'univers. Ou très franchement, nous, ça nous est arrivé avec les amis de passer une soirée à créer cette carte et ne même pas jouer le jeu derrière. Tellement c'était riche, tellement c'était stimulant, et tellement on s'était amusé à faire ça, quoi. Et donc, moi, sincèrement, cette partie phase de création à partir de la couleur, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant, quoi. Et donc, dans la phase de création, il y a ensuite le fait de créer des traits à partir de ces mots, donc de 4 à 6. Est-ce que ça t'a semblé naturel de créer ces traits?
Alors, c'est plus facile pour certains traits à créer en fonction des mots, mais par moment, on aura envie d'enrichir un petit peu plus le personnage, d'avoir plus de mots pour donner plus de texture au personnage.
Ok. Moi, c'était assez facile, en fait, très franchement. Mais probablement parce que j'ai un peu plus de bouteilles, et voilà, je me suis vite retrouvé avec plein de traits différents. Après, j'ai aussi un avantage, c'est que j'avais lu le jeu. Alors bien sûr que durant la partie, j'avais donné les exemples à Xavier, mais c'est pas pareil de recevoir un exemple comme ça et de le digérer en l'ayant lu plusieurs fois, etc. Mais c'est vrai que ça m'est venu assez naturellement, même si on peut s'apercevoir que les traits, en fait, ils sont pas anecdotiques quand même, puisqu'après, ils vont nous permettre de gagner des dés. Et pour les mettre en jeu, en fait, c'est pas évident, ou en tout cas, il faut quand même trouver des traits qui peuvent être intéressants à jouer. Alors bien sûr, c'est le conseil qui est donné au départ, de dire « mettez des traits que vous avez envie de mettre en scène », mais au départ, c'est un peu compliqué de se dire « qu'est-ce qui est un trait intéressant ?» et surtout « qu'est-ce que je peux mettre en scène ?» Donc c'est vrai que c'est pas forcément le plus évident à faire. La dernière chose qu'il y a à faire pour créer le personnage, c'est l'échange, sachant qu'on va donner un élément du joueur que l'on va intégrer au personnage.
Encore une fois, ça permet de mettre de la densité dans le personnage, et puis ce qui est amusant, c'est d'échanger un point qui nous est personnel avec l'autre. Donc on connaît ce point, et ça permet d'avoir des éléments en plus pour pouvoir relancer l'histoire.
Alors me concernant, j'ai trouvé ça assez inutile en fait. Je vois bien l'intérêt ou le côté béquille en fait, pour justement des personnes qui auraient moins d'inspiration. Parce qu'en fait, on va pas se voiler la face, le fait d'être geek ou pas geek n'a absolument pas servi dans notre histoire. Mis à part le fait de d'enregistrer un numéro de téléphone sur un portable, c'est le seul moment où on a vu la geekitude de Patrick. Et puis en plus, on a quand même un petit peu galéré pour trouver ce côté échange quand même. Soyons clairs, on a quand même passé quasiment plus de temps à définir ce que l'on allait échanger que à créer le reste du personnage quasiment. Enfin, je sais pas toi, mais on a quand même tourné un long moment avant de se dire bon, qu'est-ce qui nous différencie? Bon, ok, t'es plus geek que moi, allez, ok, on prend ça quoi. Parce que franchement, c'était quand même hyper compliqué à sortir un trait comme ça qui en plus mécaniquement n'a aucun intérêt en plus.
Faut se l'avouer, on a pris le trait du geek parce que c'était la seule chose qui nous est ressortie et qui nous a pas servi autant au final. Elle nous a permis de lancer l'histoire, mais c'est tout.
Oui, et je pense qu'en plus, le côté béquille est renforcé par le fait que, même si on le mettait en jeu, en fait, il t'apporte pas de dés. Donc j'ai vraiment l'impression que c'est un moteur sur lequel tu peux soit baser ton personnage ou pour commencer à l'incarner, mais même le jeu, en fait, t'encourage pas à le faire parce que t'as même pas de dés à mettre en jeu si tu le mets en place, quoi. Alors on commence déjà à parler des dés, donc on va passer maintenant sur la deuxième partie qui va concerner la mécanique de jeu. La première des choses, c'est qu'il n'y a pas d'univers en fait dans ce jeu. Et on utilise ce que l'on veut, sachant qu'on nous recommande quand même d'utiliser l'univers contemporain. Est-ce que cette absence d'univers défini par le jeu, ça t'a bloqué? Ou en fait, absolument pas?
Ça n'a pas bloquant du tout. Pour moi, ça ne m'a pas bloqué, cette absence d'univers défini. Puisqu'on jouait avec des éléments du monde réel et du quotidien, donc l'univers existait déjà.
Alors je suis assez d'accord avec toi. En plus, j'ai la sensation qu'en fait, cette absence d'univers permet notamment de se concentrer sur ce qui est essentiel au jeu, c'est-à-dire les personnages. Et on se pose pas la question de savoir est-ce qu'on respecte ou pas l'univers, est-ce que dans cet univers, notre personnage il a le droit de faire ci, de faire ça. Donc moi, ça m'a pas gêné non plus. Et franchement, j'étais directement focalisé sur qu'est-ce qui va arriver aux deux personnages, leur relation, comment ça va se passer, et sans me poser la question de est-ce que dans cet univers c'est cohérent ou pas, et genre de choses, quoi. Pour gagner des dés, il faut faire des descriptions, il faut narrer ce que fait notre personnage notamment, et c'est l'autre joueur qui va te donner des dés en fonction de ce que tu as dit. Ça t'a fait quoi, cette mécanique? Est-ce que c'était simple à mettre en place? Est-ce que c'était simple à s'approprier?
Cette mécanique, elle a été longue pour moi à se mettre en place. C'est dommage que je ne l'ai complètement comprise qu'au troisième rendez-vous. Au début, c'était un petit peu plus laborieux pour moi de savoir ces moments, puisque pour donner des dés, c'est quand même assez subjectif. Alors, soit on joue la carte de facilité et on donne des mots, point, on gagne le dé, soit on a envie d'aller un petit peu plus loin dans l'échange et on étoffe le thème que l'on veut donner.
Et alors, quand tu devais donner des dés, à quel moment tu les donnais?
Déjà, je te laissais finir de parler pour te laisser le temps de donner la texture que tu voulais à ces mots, de façon à pouvoir après te donner le dé. Et aussi, le fait de ne pas donner le dé pendant que tu parles ne te coupe pas et te permet de laisser aller jusqu'au bout ton imagination.
Mais tu réponds pas à la question. Au-delà de la temporalité, à quel moment tu me donnais le dé, moi, très franchement, j'ai fait un peu l'inverse de Xavier, à savoir que je donnais les dés au fur et à mesure de ses descriptions, en fait, et j'attendais pas à la fin de la description. Mais ça, c'est un héritage, on va dire, d'un autre jeu qui s'appelle Prosopopée, qui vient de Frédéric Saintès aussi, qui a une mécanique de jeu un peu similaire avec des dés que l'on donne au fur et à mesure de la narration. Mais au-delà de cette temporalité, à quel moment tu te disais, là, ça mérite un dé?
Je donnais le dé en fonction de ce que ça me faisait ressentir au niveau de mon personnage.
Et justement, il ressentait quoi à ce moment-là, ton personnage?
Si on réécoute l'enregistrement, il y a des moments où émotionnellement le personnage était content, notamment avec le moment d'attirance où on doit faire des choses pour plaire à l'autre, être charmant, ça permet de relancer l'histoire.
Alors pour moi, c'était assez évident quand je donnais les dés. Alors au départ, c'est vrai que j'étais en mode guide, mais ce qui est le terme pour le personnage qui n'est pas le joueur actif, puisque c'était aussi pour t'approprier les mécaniques, et donc ça nous est arrivé à un moment donné de couper la fiction, de te dire « tu mérites 2 dés, voilà pourquoi je te les donne », et d'être en mode explicatif. Et ça, c'était normal, c'était pour te faire comprendre comment est-ce qu'on donnait les dés, en tout cas, de la manière dont c'était fait. Mais au bout d'un moment, je le faisais plus. Et en fait, moi, c'était ce que tu expliques, c'était est-ce que ce qui est raconté plaît à mon personnage? Est-ce que ça le séduit? Est-ce qu'il trouve ça mignon? Est-ce qu'il trouve ça charmant? Est-ce que ça mérite un dé? Non pas dans le sens « je le juge », mais plutôt pour encourager l'autre, en fait. Et en fait, d'avoir plutôt un angle d'approbation, en fait, sur le fait de féliciter l'autre sur ce qu'il raconte. Et ça, c'était, c'était super intéressant. À tel point qu'à un moment donné, notamment sur le courant du deuxième rendez-vous, il me semble, où je t'ai dit, il va falloir que tu fasses plus que ce que tu es en train de me dire, parce que ça me suffit pas. Mon personnage, en fait, avait envie d'en savoir plus ou d'avoir un petit peu plus d'explications sur la suite, parce qu'en fait, il voulait explorer, en fait, quelque chose que l'autre commençait à lui décrire, et il voulait en savoir plus, quoi. Donc, on reviendra sur ce que j'ai dit tout à l'heure, déjà, c'est être en synesthésie avec son personnage, et finalement, se remercier l'autre en lui remettant des dés, là où, dans la fiction, l'autre personnage aura sûrement une réaction qui sera un petit geste, ou un sourire, ou un regard, pour montrer à quel point il est touché par ce qu'il racontait, en fait. Mais c'est vrai que, au-delà de ça, c'est quand même une mécanique qui nécessite une phase d'apprentissage. Et ça, je te rejoins sur ce que tu disais au départ, c'est vrai que ça vient pas naturellement. On a l'impression qu'il y a beaucoup de règles pour expliquer à quel moment on a le droit ou pas de donner des dés. Et au bout d'un moment, on s'est quand même dit clairement que c'était quand même subjectif et que si ça correspondait à ce qu'on avait envie d'entendre, ça suffisait. Et au final, une fois qu'on a accepté ça, et ça avance vachement mieux, quoi. Alors bien sûr, qui dit dés dit hasard. On s'est aperçu assez rapidement que les dés, en fait, ne reflétaient pas forcément l'orientation vers laquelle on avait envie d'aller. Et donc, qu'est-ce que ça t'a fait ressentir, justement, d'être dépendant, finalement, de dés qui vont te dire « Ben non, tout ce que t'as fait comme effort, en fait, ça sert à rien. »
Ce qu'il y a de bien, du coup, c'est que ça relance complètement l'histoire. On peut pas être passif et dérouler simplement quelque chose. Et ça entraîne des contraintes qui sont bien, parce que le jeu est vraiment dynamique. Il y a une remise en question de l'histoire. On est poussé à trouver d'autres idées, à renouveler ce qu'on avait en tête, à le transformer. Donc ça, c'est un plus.
Alors moi, j'ai trouvé ça super frustrant. Très franchement. Surtout qu'en plus, on va pas se voler la face. T'as quand même eu pas de chance. On a quand même fini avec juste un carré d'attirance qui était le carré d'attirance initial. On a réussi péniblement à avoir trois compatibilités. C'est pas qu'on n'a pas voulu qu'il y en ait plus, c'est que les dés, ils ont décidé que c'était pas possible. Et c'est vrai que c'est hyper frustrant. Et j'ai l'impression que si tu joues à ce jeu, il faut accepter cette frustration. Et c'est ce que j'avais dit au départ, hein, c'est il faut absolument pas partir du principe que notre objectif, c'est qu'ils finissent ensemble. Il faut accepter que ça peut ne pas bien se passer. C'est ce qui s'est passé pour nous, forcément. Mais c'est vrai que c'est frustrant, parce qu'il y a plein de moments où j'ai trouvé que les scènes étaient... elle était vraiment jolie, était vraiment belle, que c'était charmant, et que j'avais envie que les personnages se rapprochent, mais les dés nous disaient non. Alors après, moi, mon interprétation de ce que ça veut dire, alors déjà, en termes, j'allais dire, de game design, quand Emily Carbos nous dit « Vous réussissez que sur un 5 et un 6 », déjà, on sent bien qu'on a plus de chances d'échouer que de réussir. Donc déjà, on s'aperçoit que avant d'arriver à une attirance, et en plus d'avoir des points de compatibilité, bah, il va falloir qu'on rame. Donc déjà c'est un choix, parce que elle est pas dans un mode les petits bisounours, elle a conscience que les relations humaines sont quand même compliquées, et elle le fait avec le fait de nous dire ben il faut déjà avoir un succès sur un 5 et un 6, et en plus, pour réussir à créer des attirances et ou des compatibilités, il va falloir que vous ayez 3 ou 4 dés qui fassent 5 ou 6. Ce qui rend les choses vraiment compliquées, moi je trouve. Surtout si on veut pas rentrer dans le grand ridicule avec l'optique de dire je vais mettre en place tous mes traits, je vais essayer de maximiser au plus pour avoir le plus de dés possible, etc. Donc déjà, c'est une première chose qu'elle nous dit, c'est que les relations humaines, c'est compliqué. Moi, ce que j'entends aussi, c'est que malgré le fait que le rendez-vous se passe bien, que les discussions se passent bien, etc., en fait, on maîtrise pas tout l'environnement. On peut maîtriser ce que l'on va se dire, mais on maîtrise pas tout l'environnement, et que c'est tous ces moments et tout cet environnement qui n'est pas maîtrisé par l'autre, voire par les deux, qui font que ça peut ne pas coller, en fait. Et en plus, tu peux faire tous les efforts possibles pour séduire l'autre, ça marche pas tout le temps. Et quelque part, j'ai trouvé que c'était quand même assez représentatif de la vie. Mais t'as beau faire tous les efforts que tu peux, ça peut ne pas marcher, en fait. Mais il faut accepter cette frustration.
Le hasard du destin.
Malgré ça, il y a quand même une mécanique qui permet de pouvoir, en tout cas de se donner une deuxième chance, c'est le fait de mettre son personnage en difficulté, et notamment d'utiliser un trait de manière négative. Pourquoi est-ce que le fait de mettre à mal son personnage te permet de relancer, et comment t'as vécu ces moments surtout où on a dû mettre en danger nos personnages?
C'est toujours particulier de mettre un personnage à mal, comme on n'a pas envie nous-mêmes d'être à mal. Et de mettre son personnage à mal relance aussi l'histoire. Encore une fois, c'est pas quelque chose de statique. On est obligé d'avancer. Le fait de le mettre à mal permet aussi de donner une autre dimension à l'histoire. Pour moi, le troisième rendez-vous, je ne m'attendais pas du tout à ça. Durant tout le rendez-vous, toute la tournure qui a été prise, notamment par les dés et les lancers ratés, a permis d'arriver à quelque chose auquel je m'attendais pas.
Bah, me concernant, j'ai trouvé effectivement que ça permettait de relancer l'histoire, ça c'est sûr. Et comme tu dis, le dernier rendez-vous a été le plus important, puisque moi j'ai mis en scène le fait que j'étais flic, hein, et pas dans le bon sens du terme, puisque ben, y avait une mère de famille qui m'a copieusement insulté et giflé à cause de ça. Et c'est vrai que ça a donné une autre dimension au personnage, ça c'est clair. Et surtout, moi, ce que j'ai, en tout cas, le message que j'entends dans cette mécanique, en fait, vu que ça te permet d'avoir de relancer, en fait, c'est un moyen de te redonner une chance, en fait. Et surtout, bah, comme tu le disais, quelque part, le fait de mettre en danger son personnage, ou de montrer ses faiblesses, ou un côté négatif, en fait, ça te permet, de montrer qui tu es vraiment. Pour Emily Kerbos, en fait, le fait de montrer ses faiblesses, bah, c'est quelque chose qui rentre dans la séduction et surtout qui permet d'avoir une autre facette du personnage et surtout de gratter au-delà du vernis et des traits que l'on a pu créer au départ avec le fait d'être un simple flic, d'être heureux de vivre, etc., ce qui était déjà pas mal. Mais c'est quand j'ai pu mettre mon personnage en danger, d'expliquer à quel point c'était un moment qui était dur pour lui, bah que finalement la relation a été intense en fait. Donc c'est vrai que c'était assez important cette mécanique, même si elle est pas forcément évidente à mettre en place je trouve, parce que tourner un trait de manière négative c'est pas forcément des plus évidents. Mais en tout cas ça nous dit quelque chose sur les relations et le fait de dire quand tu montres tes faiblesses à l'autre, c'est pas justement quelque chose qui est négatif dans la relation amoureuse, en fait, c'est plutôt quelque chose qui est en capacité et de créer de l'attirance et de créer quelque chose de fort entre les deux, en fait.
Pour ma part, j'ai juste un regret à propos des dés. C'est le fait que pour gagner 3 dés, j'ai mis en situation mon conflit qui était l'agoraphobie, mais qui au final, je l'ai mis en situation comme un faux conflit au final, ça m'a juste servi purement pour avoir des dés en plus. Mais au final, l'agoraphobie, elle a été vite surmontée. Au lieu d'être vraiment un conflit ou un obstacle pour le personnage.
C'est vrai que le conflit a cette limite, en fait, c'est que quelque part, quand on le met en jeu, il devrait être là pour interrompre le rendez-vous, en fait. Là où il te permet effectivement de gagner tes dés, surtout si tu joues comme nous on l'a fait sur un mode on lance les dés quand on les reçoit, si ça tourne bien les dés, tu peux te retrouver avec le fait de dire finalement mon agoraphobie se calme, ou bien moi j'avais été appelé par mon filleul aux alcooliques anonymes et au final les dés ont bien parlé, donc j'ai pris l'appel, j'étais concerné. Mais je suis pas parti en courant pour aller essayer de voir ce qu'il y avait comme problème. Et c'est vrai que ce conflit te permet d'avoir des dés, mais peut aussi ne pas avoir de vrai impact sur l'histoire. Je suis assez d'accord, ouais. Et donc, comme on a dit, à la fin de la partie, on fait le bilan des 3 rendez-vous, du nombre d'attirances, du nombre de compatibilités, pour définir l'avenir de ce couple. Est-ce que ça a été facile à définir cet avenir?
C'est dommage qu'il faille atteindre un seuil de points communs pour pouvoir dire si l'histoire continue ou pas entre les deux personnages. D'où aussi ma frustration de s'arrêter à 3 rendez-vous alors que l'échange commence vraiment.
Moi, j'ai trouvé ça assez facile et assez évident, vu les 3 rendez-vous dans lesquels qu'on avait joué plutôt, qu'il n'y avait pas d'avenir pour eux. C'était bien de mon côté blasé, je sais pas, mais je voyais pas d'avenir pour eux parce que je trouvais qu'ils étaient vraiment sur 2 planètes différentes, en fait, tu vois.
Alors que pour 3 rendez-vous, déjà on a trouvé 3 points communs. Si je me rappelle, il fallait en avoir un minimum de 7-8 pour que l'histoire continue. Soit on n'a pas assez étoffé les histoires, soit a manqué quelque chose à un moment.
Bah en fait, on n'a pas eu de chance au dé. On n'a pas eu de chance au dé. Ça me semble évident. Parce qu'on a dû faire dizaines de scènes, et au final, on n'a pas beaucoup de compatibilité, parce que les dés, ils ont pas voulu. C'est pas qu'il nous a manqué quelque chose, à part de la chance, entre guillemets, mais c'est vrai que le nombre de fois où on a lancé les dés, où on n'a pas réussi à avoir ne serait-ce que 3 dés d'attirance, et quand on les a eus, il a fallu qu'on les jette pour les valider définitivement, et ça n'a pas marché, on a quand même cumulé, quand même. Donc, moi, ça m'étonne pas, hein, qu'on soit arrivé à quelque chose de si peu fort entre les deux personnages. En tout cas, sur le papier. Ça veut pas dire que ce que nous, on a raconté n'était pas intéressant. Alors, la dernière partie du podcast va être consacrée à Durant et suite à la partie. Est-ce que, selon toi, tu étais, immergé dans ton personnage?
Forcément, quand moi je suis un tout jeune là-dedans, donc je suis sûr et certain que j'ai fait des choses que d'autres n'auraient pas fait. J'ai mis des éléments personnels dans mon personnage afin de permettre de l'étoffer, on va dire, facilement, sans aller trop chercher dans mon imaginaire. Donc oui, j'étais en partie immergé dans mon personnage, puisqu'il y avait certains éléments qui, de loin, me correspondent.
Est-ce que j'étais immergé dans mon personnage ? Oui, en partie. Pourquoi en partie ? Parce que ma vision des choses, et c'est bien ma vision des choses, si j'avais été vraiment immergé, j'aurais pas parlé de lui à la troisième personne, en fait. À chaque fois, j'ai parlé sur le fait que Patrick dit ça, Patrick fasse ça. Là où, si je suis vraiment immergé dans mon personnage, je vais dire « je ». Donc, j'étais immergé d'une certaine manière, oui, parce que ça me touchait et ce genre était intéressant, mais je pense qu'il m'a manqué quelque chose pour être vraiment immergé dans mon personnage à fond. Par contre, le fait d'être immergé ou pas être immergé ne veut pas dire qu'on était ou pas attaché à son personnage. Est-ce que t'étais attaché à ton personnage ou pas ?
Forcément, c'est son personnage. C'est quelque chose que on a créé, donc on a envie que ce qu'on crée vive, soit bien, évolue. Donc oui, j'étais attaché à mon personnage.
Et est-ce que t'étais attaché à mon personnage ?
Je pense que James était attaché à ton personnage.
C'est pas la question, en tout cas.
C'est pas la réponse que tu voulais entendre.
Non, c'est pas ça. C'est intéressant, mais est-ce que toi, t'étais attaché au personnage que j'avais créé ?
Forcément, il y avait une interaction qui s'était créée, donc je pouvais que m'attacher au personnage, avec toute la texture que tu y avais donnée.
Alors, est-ce que j'étais attaché à mon personnage, Patrick ? Oui. Oui, parce que je trouvais le personnage intéressant, avec ce côté heureux de vivre, avoir, j'allais dire, une double facette avec un métier très dur, et le fait qu'il puisse partir dans le monde imaginaire à écrire pour probablement essayer de s'échapper de sa vie. Donc oui, je l'ai trouvé attachant. Attachant dans sa manière d'interagir avec James. Donc ça, c'est vrai. Et est-ce que j'étais attaché au personnage de James ? Probablement un peu. Je reconnais que ce que tu disais juste avant sur le fait d'avoir mis des éléments perso dans le personnage, oui, je te le confirme, hein. Il y a pas mal de fois où, effectivement, la différence James Xavier est très très fine, hein, soyons clairs, hein. Donc oui, c'était un personnage qui était attachant, même si de temps en temps on avait envie un peu de le secouer et de dire allez go, vas-y, regarde le personnage de Patrick, il fait, tu vois, tous les efforts qu'il fait, etc. Et le personnage de James était toujours sur le retrait, en fait. C'est pour ça que je dis que c'était un peu sur deux mondes différents, entre guillemets. En tout cas, c'était deux approches différentes de la relation. Et c'était intéressant d'avoir ce parallèle. Et c'est vrai que de temps en temps, j'avais envie de voir James un peu plus réagir. Et parmi toutes les scènes que l'on a pu jouer, quelle est celle que t'as préférée?
Alors, je vais pas répondre une seule, parce qu'il y en a deux qui m'ont...
Ah, vas-y.
Qui m'ont plu. Il y en a une qui était romantique au bord du fleuve. Mm-hmm. Avec ce petit côté de l'ours pâteau en face qui tombe dans l'eau. Et puis après, il y a l'autre scène qui est plus directe, on va dire, quand il s'explique vers la fin.
Alors c'est vrai que ouais, je retiens ces deux scènes aussi, très franchement, pour les mêmes raisons. Effectivement, pour le côté romantique de la balade sur le petit pont, etc., qui était vraiment très... très romantique, ça c'est vrai. La scène de la gifle qu'a reçu mon personnage par la mère de famille était vraiment intense de ce point de vue-là, parce que effectivement ça nous a remis dans la réalité du métier de Patrick de manière assez brutale. Et c'est vrai que c'était très important et vraiment, ouais, ça donnait une autre dimension au personnage, quoi. Donc, oui, c'est vrai que je retiendrai ces deux moments, c'est vrai. Alors, pour rester sur cette question d'intensité, est-ce que t'as trouvé le jeu intense?
Émotionnellement, le jeu, on est obligé de s'y impliquer, puisque ce sont des interactions entre deux personnages. On est obligé de faire de l'émotion, sinon ça serait des robots qui parlent. Donc forcément, il y a une certaine intensité derrière. Très intense, on va pas aller jusqu'à cette notion-là, mais en tout cas, c'était intense de jouer ses émotions et de réagir sur ça.
Alors pour ma part, j'ai trouvé le jeu, moi, pas si intense que ça. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a pris le jeu de manière trop réaliste, en fait. À savoir que il faut avoir vraiment conscience que on joue des rendez-vous, en fait. Et pas des rendez-vous, je veux dire, de la vie réelle entre deux personnes qui vont se rencontrer, etc. Et je pense que si on avait été plus, je sais pas, plus direct, peut-être, dans les rendez-vous, peut-être que ça nous aurait conduit à des choses beaucoup plus, beaucoup plus intenses, ou d'aller dans un gradient important, et on s'aperçoit, comme tu l'as dit, hein, le premier rendez-vous, c'était une appropriation des règles, puis le deuxième rendez-vous, c'était déjà plus fluide, et là, on a eu une scène romantique qui était sympa, et le dernier rendez-vous a été la scène, entre guillemets, la plus intense du point de vue de l'histoire, avec cette scène de la gifle, mais parce qu'on était vraiment dans un mode, ok, on a passé le cap du rendez-vous, et là, on connaît mieux nos personnages, et on y va. Et j'ai l'impression que si on avait commencé directement par la scène romantique dès le premier rendez-vous, on aurait pu aller plus loin, en fait. Et ce qu'on n'a pas fait, parce qu'en fait, on a vraiment pris des pincettes, faire attention à l'autre. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire attention à l'autre, hein, c'est pas ça, mais vraiment dans un mode de rendez-vous amoureux et à faire attention, à poser les bons mots au bon moment. Alors qu'en fait, c'était qu'un jeu et on était là pour jouer trois rendez-vous. Et on aurait dû peut-être aller plus direct dans la rencontre, parce qu'ils avaient déjà décidé de se rencontrer, en fait. Donc je pense qu'on est parti, entre guillemets, de trop bas en termes d'intensité pour avoir un jeu vraiment très intense, même si c'était sympa et que je me suis bien amusé avec Patrick tombant du bar en ayant dansé la gigue, et que c'était vraiment, 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 vraiment marrant. Mais c'est vrai qu'il m'a manqué un petit truc pour faire que, pour ressentir vraiment les choses de manière très, très forte, quoi. Alors, comme on met certains éléments personnels, alors notamment via l'échange, puisqu'en fait, on échange quelque chose de nous, joueurs, pour mettre dans nos personnages, est-ce que c'est un jeu que tu joueras avec un inconnu?
Je suis pas sûr de jouer avec un inconnu, dans le sens où il y a de l'émotionnel dans le jeu, et quand on connaît pas la personne, on a beaucoup plus de réserves pour transposer des émotions.
Alors moi, j'aurais aucun souci à jouer avec un inconnu, mais effectivement, je suis quasiment à 100% certain que je n'aurais pas une partie intense avec. Très superficielle, et donc oui, j'aurais pas de problème à le jouer, mais au final, je pense que ça serait fade. Et donc, je verrais pas vraiment d'intérêt à le jouer. Alors c'est une question qui est compliquée, merci Valentin. Si nous devions décrire notre jeu de romance idéal, comment serait-il?
C'est un peu dur à répondre à cette question, parce que c'est comme le jeu de dés, on ne sait pas du tout ce qu'une romance peut donner, à part quelque chose de complètement pailleté et arc-en-ciel. Non, c'est pas. Enfin, c'est dur pour moi de répondre à cette question.
Alors je trouve aussi la question hyper difficile, sinon je rédigerais le jeu, hein. Mais pour ma part, en fait, si on est sur un mode romance, pour moi ça doit finir bien. Or là, il finit pas bien. Donc déjà, pour moi, il y a une condition sine qua non pour jouer à un jeu de romance, c'est que ça finisse bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir des moments plus dramatiques ou des embûches qui vont arriver au cours de l'histoire, rendant la relation complexe. Dans toutes les comédies romantiques, ça se passe comme ça, avec les deux opposés qui s'attirent, avec, dans Coup de foudre à Notting Hill, la star qui débarque chez un libraire. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a pas des moments où, dans la relation, il va y avoir des embûches, et avec des moments où les deux personnages vont prendre de la distance, hein, comme dans Coup de foudre à Notting Hill, avec le rapprochement de cette star avec ce libraire, où ben, au bout d'un moment, le libraire s'aperçoit que ben, ils sont quand même sur deux mondes radicalement différents, et qu'au final, c'était peut-être futile que d'essayer de plaire à une star, hein, tout ça pour finir après ensemble. Mais pour que mon jeu idéal de romance se réalise, bah, il faut qu'il y ait cette happy end. S'il n'y a pas cette happy end, ça va pas me plaire du tout. Après, j'étais tellement frustré lors de cette partie par les dés, qu'il y a de fortes chances que je dégage les dés aussi. Ou alors, je les laisse, mais qu'ils puissent pas avoir un poids si important, parce que là, ils nous ont carrément pourri la relation. On a lancé les dés de nombreuses fois, tout ça pour s'apercevoir au final que les deux personnages avaient rien à faire ensemble. Mais parce que les dés l'ont décidé. Parce qu'on aurait pu très bien continuer ainsi, et il y a des relations qui se définissent bien plus tard qu'au bout de 3 rendez-vous. Donc, il y a de fortes chances que dans mon jeu de romance idéal, il n'y ait pas de dés, ou alors que si les dés sont présents, ils interviennent qu'à un moment donné, peut-être pour créer une embûche, peut-être pour créer une situation cocasse, ou quelque chose comme ça, mais ils n'auraient pas un poids aussi important, quoi. Mais parce que je suis dans un mode purement romantique de la romance, et il faut que ça finisse bien, il faut pas que ce soit trop dur, ou si c'est dur de suite, il va falloir que les deux protagonistes se rapprochent et que ça enrichisse leur relation, mais pas que ce soit la croix et la bannière pour que ils puissent avoir quelque chose qui les rapproche, quoi. Parce que sinon ça, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas ma vision de la romance, quoi. Donc pour moi, voilà, une happy end, et on peut avoir un système d'approbation, peut-être via des dés, peut-être via des points, je ne sais pas, mais pas que le hasard décide de tout, quoi. Si la relation et si la fiction que l'on raconte à deux nous plaît, ça doit suffire, quoi. Voilà.
Et tu as pas peur que s'il y ait ce happy end, ça change complètement la façon de dérouler l'histoire, et que du coup toute l'interaction et le hasard qu'il peut y avoir, au final, bon, ok, mais ça finira bien.
Mais c'est ce que j'aime dans les comédies romantiques.
Ok.
Bah, quand je regarde une comédie romantique, j'attends à ce que ce soit marrant, romantique, et que ça finisse bien. C'est, pour moi, c'est la définition. Sinon, je regarde une comédie dramatique, et je sais que ça risque de finir mal. Ou je regarde un drame. Mais si je regarde une comédie romantique, il faut qu'à la fin, ça se finisse bien.
Donc, on pourrait faire une partie de jeu où deux personnages sont complètement odieux et ignobles, mais comme c'est une comédie romantique, ils finissent bien ensemble.
Bah oui, après ils peuvent être odieux ensemble envers les autres, mais au moins ils sont heureux d'être odieux envers les autres, tu vois. Non, mais là c'est compliqué, mais oui, bien sûr que c'est un parti pris. Et que c'est un parti pris de dire, à la fin, ça finira bien. Ça serait mon parti pris. Après, je peux complètement comprendre qu'effectivement ça puisse ne pas plaire. Mais moi, ce qui me plaît dans ce genre de film, c'est ça. C'est ce côté un petit peu léger avec un ou deux passages où, oulala, attention, la relation est mise à mal. Mais à la fin, ils arrivent à surmonter ça et à se retrouver là où tout les séparait, en fait. Et c'est ça qui me plaît. Voilà. C'est mon côté chamallow. Est-ce que c'est un jeu auquel tu aimerais rejouer? Et si oui, est-ce que tu le rejouerais en l'état ou est-ce que tu ferais des aménagements?
C'est un jeu que j'aimerais bien rejouer de plusieurs situations différentes. D'abord, s'il était possible de continuer l'histoire, ou après, en commençant une toute nouvelle partie, mais cette fois-ci en ayant un petit peu plus conscience du jeu avec les dés et des interactions qu'il peut y avoir. En connaissant l'enjeu notamment des points communs, forcément, ça pousse un petit peu plus à étoffer l'histoire et à encore plus rentrer dans le contenu du personnage.
Donc moi, c'est un jeu auquel je rejouerai aussi. Qu'est-ce que je ferai comme aménagement? Comme je disais, probablement d'être plus direct dans le premier rendez-vous. Après, je sais pas, est-ce que le cadre, en changeant le cadre, est-ce que ça changerait quelque chose ou pas je sais pas, très franchement, dans un cadre science-fiction, dans un cadre autre chose, je sais pas ce que ça donnerait. Mais en tout cas, ouais, probablement que si j'y rejoue, le premier rendez-vous serait peut-être, ouais, beaucoup plus direct, ouais. D'essayer de pas faire de fausses notes pour pas qu'il y ait de deuxième rendez-vous. Alors qu'en fait, le jeu nous dit clairement qu'il y a trois rendez-vous, et c'est vrai que c'est ce qu'on a vécu, en fait, en se disant, à un moment donné, surtout au premier rendez-vous, mince, là, ça va mettre fin au rendez-vous, et puis, ouais, mais bon, si je dis ça, il aura plus envie de me revoir. Alors qu'en fait, le jeu nous dit clairement qu'il y a trois rendez-vous, donc, il faudrait qu'on puisse plus se lâcher sur les rendez-vous en se disant, mais de toute manière, il y en a trois. Donc même si ça se passe pas mal, un, il y a toujours quelque chose qui va faire qu'on va avoir au moins ce deuxième, voire ce troisième rendez-vous. Et je pense qu'il faut, ouais, essayer de le jouer de manière plus, je veux dire punchy entre guillemets, mais voilà, de manière plus directe, sans se poser la question de, il y aura peut-être pas de lendemain, parce qu'en fait il y en aura forcément un, en tout cas il y en aura forcément deux, en tout cas après le premier rendez-vous. Et donc la question rituelle finale du podcast, c'est quoi ton dernier mot?
Ben, dernier mot, ça serait voyage, parce que ce jeu permet de créer tout un univers au fur et à mesure des rencontres, même s'il est basé sur notre réel dans la partie qu'on a fait ensemble, mais de se balader au fur et à mesure de l'histoire dans différents lieux, d'échanger, presque de revivre quand on parle de plongée ou d'endroits qui quelque part nous ramènent à des choses que l'on a vues.
Mais moi, ça sera merci. Merci Xavier, parce que c'était pas évident, c'était ta première partie de jeu de rôle, c'était pas forcément un jeu de rôle facile d'accès, entre guillemets, même si en fait on s'est aperçu que si, et que même un débutant pouvait le prendre en main. On espère que d'une part la fiction vous aura bien plu, d'autre part que ce retour d'XP vous aura plu également. Je vous cache pas qu'on espère enregistrer d'autres actual play à deux, avec d'autres retours d'XP bien sûr derrière. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de ça, de la fiction, de tout ça. Et puis, ben, on vous dit au revoir, on vous dit à bientôt. Puis, soyez heureux. Ciao tout le monde.
À bientôt.